Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Stéphane Troussel, président PS du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Stéphane Troussel, il y a quelques jours, vous avez dénoncé les propos et les écrits d'Éric Zemmour qui concernent votre département. Il affirme, je cite, que votre département serait une enclave étrangère sous le règne d'Allah. Il prétend que des caïds de la drogue assurent l'ordre et la vie de tous les jours. Il évoque aussi une colonisation religieuse. Il dit encore que la plupart des cafés y seraient réservés aux hommes par une loi non écrite mais appliquée avec rigueur. Pour vous, Éric Zemmour est un fossoyeur de la République ?
Oui, écoutez, on connaissait M. Zemmour comme éditorialiste de la haine. Visiblement, maintenant, il franchit un cap supplémentaire et je crois que c'est lui qui se situe en dehors de la République et de ses valeurs. Donc, au fond, on a là le guignol en chef de toutes celles et tous ceux dont le seul projet est de diviser les Français à des fins purement politiques, à fracturer encore un peu plus la société française qui ne l'est déjà. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat de ces propos avec quelqu'un d'aussi caricatural pour savoir si il a un peu, beaucoup ou pas du tout raison. Comme élu de terrain, avec l'ensemble des acteurs publics, privés, associatifs de ce territoire. C'est tous les jours avec les outils de la République que nous affrontons les difficultés, que nous essayons d'y apporter les réponses. Eh bien, lui, par ses déclarations violentes et caricaturales, blessantes pour les habitants, et d'ailleurs qui contribue à les mettre un peu plus en difficulté, eh bien, il déchire ce travail, il déchire les valeurs républicaines simplement pour faire le buzz et continuer la promotion de son projet anti-républicain. Donc je n'ai pas l'intention de lui céder un pouce de terrain, mais nous continuerons d'agir, de combattre avec les outils de la République.
Ce n'est pas la première fois que des territoires ou des villes sont stigmatisés par des personnalités publiques. Je pense aussi à Trappe, dans les Yvelines. Éric Zemmour est aussi celui qui prophétise régulièrement la guerre civile. Au-delà de le qualifier de guignol et d'anti-républicain, est-ce que ces propos sont hors la loi ?
Vraisemblablement, et moi je me réserve le droit de porter plainte contre lui au nom du département de la Seine-Saint-Denis, une fois qu'on aura pris connaissance in extenso du livre, parce que c'est une chose de désigner telle ou telle personne, nommément ou précisément, c'est autre chose de faire l'amalgame avec une catégorie générale, avec un territoire en général, et d'ailleurs... C'est l'objet de la plainte précédente que nous avons déposée après ses propos sur les mineurs isolés qu'il avait qualifiés de voleurs, de violeurs et d'assassins. Et donc le département de la Seine-Saint-Denis s'est constitué partie civile. Et je me suis rendu à l'audience qui a eu lieu la semaine dernière. Encore une fois, nous ne lâcherons pas un pouce de terrain face à ce type d'individu. Parce que nous voulons au contraire défendre les valeurs républicaines de solidarité, d'égalité, de justice dans notre pays.
Alors, vous défendez les valeurs républicaines, mais Éric Zemmour est invité presque partout. Est-ce qu'il est difficile pour les responsables politiques modérés, attachés à la vérité, de contrer de telles fake news avec le langage de la raison ? Finalement, vous ne luttez pas à armes égales avec les populistes ?
Oui, c'est clair, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut maintenant que, et le CSA vient de le demander, qu'il quitte les plateaux de télévision. Ça ne fait à peu près aucun doute maintenant qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. D'ailleurs, lorsque ses avocats se sont rendus à l'audience la semaine dernière, ils ont explicitement demandé le report de l'audience après le deuxième tour de l'élection présidentielle. Au motif, je cite, que chacun sait bien maintenant que M. Zemmour sera très probablement candidat à l'élection présidentielle. Bon, et bien maintenant, il faut qu'il doit quitter les plateaux et son statut d'éditorialiste, y compris pour que dans les réactions et les débats que les uns et les autres auront avec lui, eh bien nous soyons à armes égales et que nous nous placions sur le terrain de la confrontation politique et plus avec quelqu'un qui se présente comme un éditorialiste.
Alors parlons de la Seine-Saint-Denis, notamment des chantiers que vous avez lancés en cette rentrée, le plan Éco-Collège. Vous allez consacrer 1 milliard d'euros pour adapter les collèges au changement climatique.
Oui, quand on est le département le plus jeune de France, on a pour responsabilité de mettre le paquet sur l'éducation, et c'est pour ça que depuis 10 ans, nous avons fait beaucoup plus que n'importe quel autre département de France, avec 10 collèges supplémentaires, mais surtout 23 collèges construits ou reconstruits, et une centaine qui ont fait l'objet de travaux plus ou moins importants. L'idée, c'est de poursuivre cet effort avec un nouveau plan éco-collège d'un milliard d'euros sur 10 ans, qui débute à l'occasion de cette rentrée, avec 3 objectifs majeurs: répondre aux défis démographiques, parce qu'il nous faut créer 7000 places supplémentaires pour les futurs collégiennes et collégiens de la Seine-Saint-Denis. Nous porterons aussi le nombre de collèges publics en Seine-Saint-Denis à 138, avec 8 nouveaux collèges. Répondre aux défis environnementaux, pour faire face notamment au changement climatique, avec la rénovation, la reconstruction de 43 collèges en 10 ans, avec un objectif de réduction de 50% des émissions de CO2, la végétalisation de 100% des cours de récréation, l'utilisation de matériaux biosourcés ou sources de chaleur moins énergivores, et puis répondre aux défis pédagogiques d'aujourd'hui en renforçant l'équipement numérique, les équipements sportifs, les espaces dédiés aux enseignements culturels, artistiques, la citoyenneté. Parce que nous voulons dire à la jeunesse de la Seine-Saint-Denis, aux générations futures, que nous sommes mobilisés pour lui offrir le meilleur, parce que bien évidemment, le cadre de travail peut aussi avoir un effet sur la réussite scolaire.
Stéphane Troussel, la vaccination continue contre le Covid dans toute la France, et notamment en Seine-Saint-Denis, depuis la rentrée. Vous avez mis en place des actions pour vacciner les collégiens ?
Oui, effectivement, moi je considère que il faut tout faire en cette rentrée pour que la reprise de l'école, du collège, du lycée, elle soit la plus durable possible. C'est une nécessité après 2 ans de pandémie. On en connaît les dégâts sur le plan économique, social, mais aussi en termes d'apprentissage et de décrochage scolaire à chaque fois qu'il y a eu ces périodes de confinement et donc de restriction du fonctionnement normal de l'école. Et donc, tout doit être fait pour que cette rentrée soit celle d'un retour durable à l'école. Et donc, compte tenu que le retard vaccinal persiste en Seine-Saint-Denis, en dépit des efforts des collectivités locales et des autorités sanitaires et préfectorales, et s'agissant des plus jeunes, on voit bien qu'il y a encore des efforts à faire, j'ai souhaité que le département s'engage aux côtés de l'État, aux côtés de l'Éducation nationale, aux côtés de l'ARS, pour participer directement à la vaccination des collégiennes et des collégiens. Nous appuyons à la fois sur nos 2 centres de vaccination, Tremblay et Noisy-Grand, sur notre bus de la vaccination pour faire ce qu'on appelle l'allée vert. Et de cette manière, on couvrira 22 collèges, un lycée d'ici la Toussaint, en appui, en complément des autres opérations de vaccination qui sont menées par l'Agence régionale de santé, la caisse primaire d'assurance maladie. Et au-delà, notamment de ces quelques semaines qui suivent la rentrée, il faut prolonger cet effort dans la durée, notamment en informant, en sensibilisant les parents pour obtenir leur consentement et faire en sorte que, au-delà des actions de mener à la rentrée, on soit dans la durée pour créer de la confiance, faire de la pédagogie auprès des familles, des démarches en lien avec le corps médical et scientifique, de l'information à moyen et long terme, une implication des équipes éducatives, y compris en les formant pour expliquer, afin que le taux de couverture vaccinale augmente, parce que la vaccination, c'est durablement la seule solution pour sortir de cette crise.
C'est difficile de convaincre les parents qui se méfient du vaccin, qui estiment que leurs enfants sont potentiellement moins en danger face au Covid que les personnes âgées, par exemple.
Oui, c'est vrai, mais justement expliquer que les plus jeunes, notamment, quand bien même ils sont Covid positifs, ils peuvent être très largement asymptomatiques et donc ils peuvent transmettre sans le savoir à des personnes qui, elles, sont beaucoup plus fragiles. Or, comme en Seine-Saint-Denis, encore une fois, en dépit de nos efforts, il y a encore un pourcentage plus élevé qu'en moyenne nationale de gens qui ne sont pas vaccinés, eh bien, c'est... il faut absolument convaincre parce que c'est une manière de protéger les enfants, les jeunes, mais c'est aussi une manière de protéger tous les autres. Et donc, il faut faire ce travail de pédagogie, d'information et de sensibilisation.
Stéphane Troussel, vous étiez présent à Rouen dimanche lorsqu'Anne Hidalgo a annoncé officiellement sa candidature à l'élection présidentielle. Pourquoi estimez-vous qu'elle est la meilleure pour succéder à Emmanuel Macron?
Écoutez, moi je crois que à la fois par son histoire, par sa stature, par ce qu'elle fait dans la responsabilité qui est la sienne pour transformer une ville, pour prendre le tournant de la transition écologique dans la justice sociale, donc avec son souci, compte tenu aussi de ce qui est son histoire personnelle, de redonner de la force, du contenu, de la réalité à la promesse d'égalité républicaine, eh bien oui, je crois qu'elle est la mieux placée pour incarner cette candidature qui doit rassembler largement la gauche et les écologistes. Donc oui, je la soutiens, je m'engage à ses côtés et on voit bien par exemple depuis 48 heures sa volonté de mettre dans le débat politique et bien justement des propositions, des débats sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens. La question des salaires, la question des services publics, la question de l'éducation, la question du travail, de la nécessité de réindustrialiser notre pays, eh bien, voilà des sujets dont j'ai la conviction, moi, qu'ils sont ce dont notre pays a besoin, bien éloignés de ces débats identitaires, sécuritaires, liés à l'immigration, qui font les délices de la droite et de l'extrême droite.
Les Français qui ont sanctionné le Parti Socialiste en 2017 peuvent-ils encore faire confiance à une candidate socialiste?
Bon, d'abord, Anne Hidalgo, elle ne sera pas, vous verrez, uniquement la candidate du Parti Socialiste parce que c'est la politique qu'elle mène, les engagements qu'elle prend, sa volonté peut-être très tôt, contrairement y compris à d'autres dirigeants et responsables socialistes de faire des choix très courageux en faveur de la transition écologique, fait de mon point de vue qu'elle peut justement incarner ce dépassement, cet élargissement, ce rassemblement. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les élections municipales de 2020 où des candidats socialistes, des maires socialistes ont été capables de rassembler bien au-delà, y compris justement à la fois de rassembler le reste de la gauche, les écologistes, y compris de gagner des nouvelles municipalités sur la droite. C'est le cas à Nancy, c'est le cas à Montpellier, c'est le cas dans un certain nombre de grandes villes, y compris en Seine-Saint-Denis, je pense à Saint-Ouen, où nos candidates ont incarné ce rassemblement de la gauche et des écologistes.
Anne Hidalgo s'est entourée d'élus locaux, vous venez de mentionner certains maires, des présidents de départements ou de régions. C'est pour gommer son image de parisienne ou bien véritablement c'est une conviction chez elle qu'aucune politique nationale ne peut être mise en place sans tenir compte des territoires?
Vous savez, le fait qu'elle soit maire de Paris, c'est une force, ça lui donne une stature internationale. Elle a été confrontée à des crises sans précédent au cœur de Paris. Je pense bien sûr aux actes terroristes, je pense à la crise sanitaire. Je considère que c'est une force. Par ailleurs, elle a engagé la transformation d'une grande ville avec justement ces choix très courageux qu'elle a fait sur la place du vélo, sur la lutte contre la cherté du logement, avec cette volonté chevillée au corps de permettre le maintien des catégories moyennes et populaires à Paris, notamment en encadrant les loyers, en favorisant la construction de logements sociaux. Des choix très courageux qui lui ont valu souvent beaucoup de contestations, mais elle a tenu bon et les Parisiens l'ont réélue, donc c'est une force. Mais bien évidemment, elle sait que ça ne fait pas un projet pour le pays tout entier. Donc oui, elle veut s'appuyer sur des élus, mais pas seulement, des responsables associatifs, des personnalités de la société civile qui incarnent la diversité du pays, la diversité des territoires de notre pays, avec la singularité des situations auxquelles chacun de ces territoires sont confrontés. Et donc, c'est une force supplémentaire d'avoir autour d'elle cette grande diversité d'engagement des uns et des autres.
Dernière question, Stéphane Troussel. On a vu que le premier thème de sa campagne a concerné les enseignants à travers la revalorisation de leur salaire. Vous qui êtes président d'un département très jeune, qu'est-ce que vous souhaitez en termes d'éducation pour votre département ?
Bah écoutez, si elle a fait, d'abord, moi je suis très heureux qu'elle ait mis ce sujet au cœur de ses engagements. Et très franchement, qu'elle réveille le débat politique de cette manière, avec cette proposition sur l'éducation et sur la rémunération des enseignants, eh bien, ça nous permet enfin de placer le débat politique au bon niveau, de le placer au cœur par rapport au cœur des préoccupations des Français, bien éloigné de ces clashs qui ont lieu sur les chaînes info où Monsieur Zemmour a micro et caméra ouvert. Donc tant mieux. Par ailleurs, vous imaginez bien que pour le président du département le plus jeune de France métropolitaine, où ces enjeux éducatifs, où ces enjeux de l'accompagnement, de la prise en charge de la grande difficulté scolaire, bien sont pour moi forcément une satisfaction. Nous avons aujourd'hui dans notre pays une baisse continue du nombre de candidats au concours de professeurs. Nous avons une grande difficulté, notamment dans les territoires populaires, mais aussi, j'en suis sûr, dans certains territoires ruraux, une grande difficulté à parfois à fidéliser des enseignants. C'est le cas, en tout cas, dans les territoires populaires. Donc, on fait souvent des comparaisons de notre pays avec la situation en Allemagne. La réalité, c'est qu'en début de carrière, notamment, les enseignants, les professeurs français sont deux fois moins rémunérés qu'un professeur en Allemagne. Ça nous classe au 21e rang des pays de l'OCDE. Donc, mettre cette question sur la table aujourd'hui, c'est une absolue nécessité. Et par ailleurs, elle replace ce débat-là de la rémunération des enseignants dans un débat plus vaste, plus large, sur la question de la rémunération des agents publics, toutes celles et tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, de l'accompagnement des enfants en difficulté, de l'accompagnement des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Et par ailleurs, de manière encore plus générale, la question des salaires dans notre pays, les écarts de rémunération avec l'explosion des inégalités, eh bien, ça sera au cœur des débats, des choix qu'elle proposera au pays.
Merci Stéphane Troussel. Je rappelle que vous êtes président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bonsoir.
Merci beaucoup.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.